long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
L'aube du monde, nous les Irakiens, retour à Babylone, voilà qui dit tout en quelques titres de film du lien qui unit le réalisateur Abbas Fadel à l'Irak. Parti en France à l'âge de 18 ans pour y étudier le cinéma, au bras d'Éric Rohmer ou Serge Danet, jusqu'à obtenir un doctorat de l'université parisien Panthéon-Sorbonne, c'est finalement la situation chaotique vécue par les siens qui le ramène sur sa terre natale avec une caméra. Homeland, Irak, Year Zero vient de remporter le prix du meilleur long métrage lors de la 46e édition du festival Vision du Réel 2015. Documentaire exceptionnel de 5h30 où se déroule la chronique familiale de sa propre famille avant et après l'intervention américaine de 2003. On peut dire que pour ce réalisateur, scénariste et critique de cinéma franco-irakien, c'est l'œuvre de sa vie. Bonjour Abbas Fadel.
Bonjour.
Vous vous êtes donc retrouvé un jour avec 120 heures de rush d'images que vous n'avez monté que 10 ans plus tard. Pour quelle raison ?
Pour une raison assez simple, c'est que j'ai filmé ma famille et mes amis. Et l'un des personnages principaux du film est mon neveu, Haïdar, qui avait à l'époque 11 ans et qui a été assassiné. Donc, et après sa mort, il m'était impossible de revoir les images. Il m'a fallu 10 ans de deuil pour pouvoir revoir les images. Et c'est en les revoyant que j'ai vu le film, Homeland. J'ai vu ce film possible et nécessaire, en fait.
Oui. On va y revenir, à Haïdar étant le fil rouge de votre film. Donc grâce à cette œuvre vraiment monumentale, nous sommes tout de suite avec vous sur la terrasse de la maison familiale à Bagdad. Et votre œil de cinéaste capte comme ça les de fiers palmiers qui caressent la voûte du ciel, mais aussi les voix plurielles du muezzin. A alors décidé, après plus de 20 ans d'absence, quelque chose comme ça, à rejoindre Bagdad, qui se préparait en 2002 à l'entrée en guerre avec les Américains. C'était le pire moment pour y aller.
Oui, mais c'était le moment nécessaire pour moi en tant que réalisateur. Je le sentais que ça va être un moment historique, qu'une guerre, c'est quelque chose dans la vie d'une nation, c'est quelque chose qui bouleverse tout. Et donc il fallait que je sois là déjà pour être avec ma famille, pour partager leur destin. Comme le dit mon neveu Haïdar dans le film, à quoi ça sert de survivre si les tiens meurent. Donc c'était un peu pour être avec eux dans ce moment-là. Et puis comme mon métier cinéaste, donc c'était aussi pour documenter par l'image et le son ce moment historique, le bouleversement qui se préparait. On était certain que la guerre allait avoir lieu, mais on ne savait pas à quoi va ressembler l'après.
Donc vous étiez prêt à prendre tous les risques pour le pays qui allait être bouleversé, qui allait peut-être changer radicalement, et pour les vôtres.
Oui, mais j'étais pas conscient de prendre des risques. En fait, je faisais juste ce que tout Irakien, homme, femme, enfant, faisait chaque jour. Ils partaient le matin à l'école, au travail. Ils savaient pas s'ils allaient revenir. Alors moi, je suis pas différent d'eux. Enfin, je suis même privilégié par rapport à eux parce que j'étais en France, donc je vivais tranquillement. Mais c'est juste ces moments historiques. Il fallait que je les vive, parce que si je les avais pas vécu avec eux, j'en aurais souffert toute ma vie. C'était quelque chose à ne pas manquer, disons entre guillemets. Enfin, en tant qu'Irakien, en tant que cinéaste.
Alors le 28 avril 2002, c'est marqué dans le doc que l'on regarde, c'est le 65e anniversaire de Saddam Hussein. On voit votre famille dans son salon avec des lampes à pétrole, regarder beaucoup la télévision, c'est finalement la seule fenêtre qu'elle a sur le monde. Puis finalement, ben oui, il y a des lampes à pétrole parce que comme tous les jours, il y a des coupures d'électricité. On les voit faire avec le quotidien. Donc ouais. Vous filmez finalement ce compte à rebours jusqu'à la guerre. Et c'est très étrange parce qu'en les regardant, on ne sait pas très bien si on les sent fatalistes ou aguerris.
Les deux. Et puis, je crois, il y a...
Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas d'indignation, il y a à peine de la crainte, hein, finalement, quand on les regarde vivre.
C'est-à-dire, sont arrivés, comment dirais-je, quand quelqu'un arrive tout en bas, elle peut pas descendre plus bas. Donc, ils espèrent, c'est-à-dire même la guerre, inconsciemment, ou peut-être consciemment pour certains, ils l'espéraient. Beaucoup espéraient la guerre pour se débarrasser de Saddam et pour vivre normalement.
Pour se débarrasser de Saddam. Alors ça, par exemple, c'est une phrase évidemment qu'on n'entend absolument jamais dans ce documentaire. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la paranoïa qui est quand même engendrée par le régime de Saddam Hussein, vous l'avez sentie perceptible dans le quotidien de votre famille, intramuros, dans la maison, enfermée?
Oui. Alors vous dites qu'on n'entend pas la phrase « se débarrasser de Saddam », c'est pour une raison simple, c'est personne ne pouvait le dire et moi je ne pouvais pas le filmer, même si quelqu'un le disait, je ne pouvais pas le filmer.
Ah oui.
Parce que ça aurait été la peine de mort pour toute la famille. Mais par exemple, il y a des petites signes comme ça. Par exemple, quand mon beau-frère, à la fin d'un discours de Saddam, il dit « change de chaîne ». Rien que ça, si l'ascenseur irakien avait vu ça, ma famille aurait eu des problèmes. Ou quand mes neveux et nièces sur la terrasse, dans le noir, ils font semblant de chanter Happy Birthday Saddam, en se moquant. Ça aussi, c'était dangereux.
Deux semaines après l'invasion américaine, Abbas Fadel, votre caméra circule dans la ville, dans ce Bagdad. On y voit des bâtiments absolument calcinés, des quartiers entiers décapités. Mais dans cette capitale subsiste toujours debout le musée national d'Irak, soi-disant protégé des pillages par un tank américain. Donc il y a un tank devant la porte. Hein. Il est censé être protégé, ce musée, parce qu'il y a des trésors de Mésopotamie qui datent de plus de 5000 ans. Extrait en sol majeur de Homeland Irak Year Zero, avec cet échange entre un gamin irakien et un soldat américain.
Extérieur jour.
Western. Fish, fish, montrez à fish. Fish, fish. 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 Yes.
Extérieur nuit.
Bye. Let's America. Bye.
Petite discussion, petite traduction. Abbas Fadel.
Oui, alors c'est des enfants qui sont devant le musée national et sont en train d'échanger avec un soldat américain. Ils lui disent, est-ce que tu as du chocolat? Et lui, il dit non, mais après les enfants lui disent, est-ce que tu veux du thé? Mais alors, est-ce que tu as des dollars?
Comment vous avez fait pour filmer en immersion comme ça dans ce pays qui est le pays le plus déstabilisé de la planète?
Quand je revois le film, je me dis que j'ai été souvent inconscient. C'est-à-dire, sous Saddam, filmer, c'était interdit. Même prendre une photo, c'était interdit.
Donc, et comment vous avez fait, là, pour...
J'ai filmé, tout simplement. J'ai pris ma caméra et j'ai filmé.
On vous a laissé.
Alors, peut-être, c'était tellement invraisemblable que quelqu'un ose filmer qu'ils se sont dit que, il doit avoir les autorisations. Une ou deux fois, on a été arrêté, mais j'avais la chance d'être accompagné par un ami. C'est un peu le Gérard Depardieu irakien. Samir Kaftan, c'est une star là-bas. Donc quand il me voit avec moi, lui intervient, c'est un charmeur. Donc il pense qu'on filme pour la télévision irakienne. Donc ils nous ont laissé. Mais c'était inconscient, en fait, c'était dangereux. Et après la guerre aussi, c'était se balader avec une caméra, on pouvait être visé par les Américains, par de groupes armés, parce que on peut me prendre pour un journaliste ou pour un espion. Voilà.
C'était... Est-ce que vous, malgré tout, vous vous êtes fixé des limites, des contraintes en filmant?
J'ai pas filmé des cadavres, ça c'était vraiment, ce film aussi est une réponse à tout ce qu'on voit dans les médias, c'est-à-dire.
Ah oui, justement. C'est votre guerre médiatique à vous?
C'était vraiment, j'ai mis un point d'honneur à ne pas mettre une seule image de cadavre sur les 5h30 du film.
Pour quelle raison?
Parce que pour moi, c'est des personnes. Une cadavre, c'est une personne, c'est un être humain qui a un nom, une famille, une histoire. Ça sert à la propagande des terroristes. Même aujourd'hui, là, je suis contre la diffusion des vidéos de Daesh. À la limite, on peut diffuser l'image, la photo d'une personne. Par exemple, j'ai mis la photo de mon nouveau... Enfin, sa photo à la maison, accrochée à la maison avec un bandeau noir, mais j'ai pas montré la photo de son cadavre. Il était allongé par terre dans la morgue parce que la morgue était tellement pleine qu'il y avait même pas de place. Donc, il était par terre. Donc, je vais pas filmer ça.
Mais pour vous, montrer des cadavres, c'est faire la propagande des terroristes.
Absolument. C'est quoi le mot même? Dans le mot même terrorisme, c'est terreur. Les terroristes gagnent par la terreur, ça. Ils font peur. Ils font peur comment ? Par les images, par les vidéos. Donc, plus on les diffuse, plus on rentre dans leur jeu.
Extérieur jour à Bagdad, où des gens de la rue vous entraînent, vous, Abbas Fadel, le réalisateur, dans leur bicoque, hein, on peut pas appeler ça autrement, pour vous montrer justement dans quelles conditions ils vivent, conditions souvent liées à leur appartenance politique.
Dans tout l'Irak, tu ne trouveras pas une seule maison comme la mienne, sans ventilateur. Malgré ça, je dis merci mon Dieu. Où aller pour expliquer notre situation, plaider notre cause? Quand je vais à la mairie, ils me disent tu n'es pas baptiste. Je suis baptiste, oui.
Qui te dit que tu es baptiste?
Non.
Quand je suis allée à la mairie, ils m'ont demandé « N'es-tu pas baptiste ?» J'ai répondu « Oui ». Mais savez-vous que 5 de mes proches ont été exécutés par Saddam ? L'un d'eux, mon oncle, a été le premier martyr à Hila.
Il fait partie des victimes des charniers ?
Non, non. Il était membre du parti islamique al-Dawa. Sa condamnation à mort est notifiée.
Tribunal de Babylone, nom du trépassé Hamza Abdelkadem Hussein.
Voici sa photo. Le premier soldat martyr à Hila.
Condamnation à mort par pendaison.
Extrait en sol majeur de Homeland Irak Year Zero. Ce témoignage, Abbas Fadel, a vraiment valeur de document, hein, sur les conséquences de l'invasion américaine et aussi sur le mensonge américain qui, George Bush disait vouloir venir en Irak pour lutter contre le terrorisme. Ce document en témoigne du contraire puisque Saddam mettait en prison les islamistes.
Disons que Saddam a été remplacé par 200 Saddam. On s'est débarrassé d'un dictateur et à la place, ça a été remplacé par 200 dictateurs, enfin des partis corrompus, des politiciens corrompus. Peut-être la plus grande faute qu'ont commis les Américains à leurs arrivées, c'était de dissoudre l'armée et la police. Comment on peut diriger un pays, gouverner un pays sans armée, sans police? La plupart des pierres, c'est des gens pauvres, en fait. Voilà. Après avoir passé 13 ans de privation pendant l'embargo, tout d'un coup, tout devient possible. Ils ont commencé par piller les palais de Saddam, après, leurs concitoyens. Et comme il n'y a pas d'armée, pas de police pour les réprimer, le pays est entré dans une sorte d'engrenage de violence. Et après, une partie de ces pierres, ces bandits, se sont convertis en milices religieux. On a vu des ex-tueurs, ex-violeurs, tueurs devenir des islamistes. C'est vraiment les mêmes, avec les mêmes méthodes, sauf que maintenant, c'est une certaine légitimité. Ils tuent au nom de la religion.
Et par rapport à la couverture que les médias occidentaux ont fait de cette guerre, vous avez l'impression, vous, comme on le disait un petit peu au début, de faire votre propre couverture médiatique, de donner une autre voix à cette guerre, Abbas Fadel, avec ce documentaire?
Moi, j'ai croisé quelques reporters étrangers, enfin, quand je prenais l'avion pour aller à Bagdad, je voyais comment ils parlaient, parce que leur chaîne de télévision leur a envoyé, ou parce qu'il faut y aller, c'est la place où il faut être. C'est-à-dire, une semaine avant, ils étaient en train de couvrir le couronnement d'une quel roi en Europe, et puis là, se trouve en Irak, et après, c'est les Jeux Olympiques. Certains sujets nécessitent un engagement de la part du journaliste ou du reporter. Ça, je n'ai pas senti.
Qu'est-ce qui vous a le plus déstabilisé pendant cette expérience?
C'est un peu difficile pour moi de y répondre, parce que moi-même, je ne reconnais pas l'Irak actuel. Je me demande s'il existe. Enfin, l'Irak où j'ai connu n'existe pas, en tout cas. Je suis très pessimiste, en fait. Alors, je suis pessimiste parce que je vis en France, mais dès que je vais en Irak, je retrouve l'optimisme, je deviens optimiste, parce que la résilience de peuple est incroyable.
Peut-être que le plus déstabilisant, c'est sans doute la figure de l'un des principaux personnages de votre film, Abbas Fadel, votre neveu de 11 ans, Haïdar, que l'on suit en s'attachant à lui, d'ailleurs, très fort, durant ses 6 heures de doc. Il est pétillant, j'ai l'image de lui en train de s'activer sur la pompe à eau pour faire des provisions en prévision de la guerre. On le sent aussi avoir une vraie conscience politique. À un moment donné, sur une place publique, il critique ouvertement Saddam Hussein. Bref, il représente l'avenir de l'Irak.
Voilà.
Et vous avez, juste après les premiers bombardements, une conversation avec lui.
Tu as vu des Américains à Ahit?
Pas à Ahit, mais à notre retour à Bagdad. Certains Américains sont gentils, d'autres méchants.
Que font les méchants?
Ils hurlent, ils bousculent les enfants, leur disent de dégager. Certains sont gentils et jouent avec les enfants. D'autres ne savent que pousser les gens et hurler go.
Tu peux la répondre. C'est mon pays, je vais où je veux.
Si tu leur dis ça, ils peuvent te tirer dessus. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce sont des occupants. On ne peut pas s'opposer. Notre pays est devenu comme la Palestine.
Alors l'Irak, c'est la Palestine aujourd'hui?
Peut-être même pire, en fait, parce que la Palestine s'est occupée, disons, par un autre pays, par une puissance étrangère. Aujourd'hui, l'Irak est divisé. C'est les Irakiens qui sont divisés aujourd'hui. Moi, j'ai quitté l'Irak. Mon père est sunnite, ma mère est chiite. Et ça, il n'y avait pas de différence, on ne le sentait pas. Et aujourd'hui, on a divisé l'Irak entre chiites, sunnites, arabes, kurdes, chrétiens, musulmans. Et les musulmans eux-mêmes sont divisés. Enfin, c'est, par exemple, Daesh, ils disent les autres musulmans, les chiites, c'est pas des vrais musulmans, c'est des kuffars, c'est des mécréants. Et donc, c'est pire, je crois.
Voir les roches de votre neveu, vous le disiez en début d'émission, a été difficile évidemment pour vous, Abbas Fadel. Il était l'avenir, il était aussi le fil rouge de ce film. Mais vous, réalisateur, vous avez pris le risque ou pas, enfin, de rejoindre les vôtres dans ce temps de guerre aussi pour les filmer comme pour les protéger, vous disiez, hein, Abbas Fadel.
Ouais, ouais.
Et finalement, en arrêtant de les filmer...
Il est arrivé ce que je craignais. Ouais, j'avais une sorte de superstition. C'est-à-dire que je me disais qu'autant que je filmais les miens, je pouvais les protéger. C'est comme si la caméra les protégeait.
On va dédier cette émission, en tout cas, à votre neveu, Haïdar. Et on va poursuivre notre route de Babylone à Paname, en passant par le quart de ton d'un grand chanteur irakien aujourd'hui installé au Canada, Kazem Al-Saher, que vous aimez et qui pleure comme vous son Bagdad perdu.
Ouais. C'est la plus grande star de la chanson arabe, donc c'est plus chanteur pour une fille et pas pour moi, mais elle a fait quelques chansons engagées, donc notamment celle-ci qui est sur Bagdad, sur sa famille, sur l'exil.
On a le droit d'être un homme et avoir un cœur de jeune fille. Hein.
Oui.
يا دنيا انت حرمتيني من اهلي يا دنيا انت حرمتيني من اهلي سكنت الغرب غصبا علي ادق يا باب واسال من عليكم ضعف صبري وزمان غريب وكل غريب يتذكر أهله الأم الحبيبة والدي الحبيب
Saher, qui embaume notre studio en sol majeur et la mémoire du réalisateur franco-irakien Abbas Fadel, qui tremble un petit peu avec nous d'écouter les nouvelles du monde pendant 3 minutes.
En sol majeur.
Homeland, Irak, Year Zero. 2 ans dans la vie de sa famille irakienne avant et après l'invasion américaine de 2003. Ce documentaire fleuve signé Abbas Fadel, sesterce d'or du meilleur long métrage du festival Vision du Réel 2015, nous permet de toucher du doigt le réel de cette guerre qui a été très médiatisée, mais forcément abstraite. Une guerre qui a balayé, anéanti l'Irak de notre invité, partie filmée justement pour immortaliser ou partie pour mourir avec les siens. Son œil de réalisateur était prêt à tout. Mais heureusement, Abbas Fadel, réalisateur franco-irakien, a une bonne étoile au-dessus de la tête, celle du 7e art.
Catherine n'est pas spécialement belle, ni intelligente, ni sincère, mais c'est une vraie femme. Et c'est cette femme que nous aimons.
Vous êtes deux idiots.
Alors, crapule, vous avez gagné la guerre.
Voyez-vous, Jules, je préférerais avoir gagné ceci.
Moi aussi, je suis allée dire adieu à mes amours. Tu vas me tenir dans tes bras toute la nuit, mais pas plus.
Bacon.
Jim, aimez-la, épousez-la et laissez-moi la voir.
Bleu, blanc.
Et on restera toujours ensemble, tous les deux.
Rouge.
Est-ce que c'est le cinéma qui vous a fait venir en France, Abbas Fadel?
Absolument, oui, absolument. Et là, je reconnais la voix de Jean Moreau dans Jolie Jim. C'est ce film qui m'a fait choisir la France.
Ah bon? Précisément?
Oui. Enfin, moi, à l'âge de 15 ans, j'avais décidé de partir étudier le cinéma à l'étranger. Je ne savais pas encore où.
Vous étiez à Babylone à ce moment-là?
À Babylone, voilà. Donc, à 15 ans. Donc, il m'en restait encore 3 ans pour finir mon bac. Et après, j'aurais dû choisir l'Angleterre parce que je parlais un peu l'anglais, alors que la France, je parlais pas un seul mot de français. Mais un jour, un de mes amis m'a dit qu'il y avait une projection à l'Institut français à Bagdad et on est allé voir et c'était Jolie Jim. Le film n'était pas sous-titré en arabe, donc on comprenait pas, mais par contre, la musique de la langue, j'avais beaucoup aimé. Des années après, je suis allé présenter mon film L'Aube du Monde à un festival en France, parrainé par Jean Moreau. J'ai échangé avec elle, je lui ai dit, vous savez, je suis venu en France pour vous, par amour pour vous. Elle m'a dit, ah, mais vous le regrettez pas? J'ai dit non.
Jolie rencontre. Mais vous parlez du cinéma parce que vous avez été baigné finalement dans l'Irak de votre enfance, dans l'amour du cinéma. Et vous parlez même dans un précédent documentaire qui s'appelle Retour à Babylone, qui date de 2002 aussi, de république du cinéma. Vous dites que le cinéma pour vous c'est comme une petite république.
Ah, je me rappelle pas avoir dit ça dans le film, il faut que je le revoie.
Dommage.
Oui, mais non, mais le cinéma compte beaucoup pour moi. Je suis allé au cinéma avant d'aller à l'école. C'est-à-dire, mon père était un cinéphile. Il y avait 3 cinémas, salles de cinéma à Babylone. Et on allait voir et revoir les mêmes films. Et quand je lui ai annoncé que j'allais partir étudier le cinéma, là, c'est reproché de m'avoir communiqué cet amour du cinéma au point que je décide à partir vraiment l'étudier. Là, il a eu peur.
Est-ce que ça a été facile pour vous de sortir d'Irak?
Non. Quand je suis parti, c'était très rare. C'était sous Saddam et c'était très compliqué d'avoir un passeport, etc. Mais bon, j'ai pu partir. Et...
Vous avez eu du piston?
Non. Je venais de terminer le bac et c'était pour étudier, donc ça va. À l'époque, Saddam, il avait une ambition. Ça encourageait même les Irakiens à partir étudier à l'étranger, pas le cinéma, mais bon. Mais par contre, c'était rare de partir. Les Irakiens, c'est pas un peuple qui... Maintenant, il y a beaucoup d'Irakiens qui vivent à l'étranger, mais à l'époque, ça n'existait pas encore.
La question, c'est, est-ce que votre amour du cinéma avait un lien avec une forme de contestation politique? Vous dites que votre premier choc cinématographique, vous le devez à la star du cinéma égyptien Youssef Chahine et à son film réalisé en 72, Le Moineau. Est-ce que c'était un film politique, ça?
Oui, c'est un film très politique qui a marqué des générations de cinéphiles arabes. Et disons que moi, les premiers films que j'ai découverts avec mon père, c'était des westerns spaghetti, des peplum, des comédies musicales égyptiennes et indiennes. Mais c'est le jour où j'ai découvert Le Moine du Chahine que j'ai vu que le cinéma pour parler de politique. Je comprenais un peu pourquoi les Arabes avaient perdu la guerre de 67 contre Israël, tout ça. Donc j'ai vu concrètement, par le moyen du cinéma, qui sont très fortes, ce que ça veut dire concrètement la politique. On voyait les conséquences de la politique dans la vie quotidienne des gens. Ça, je ne le voyais pas autour de moi. Je l'ai vu au cinéma.
Vous êtes en France donc à partir de 18 ans et là, vous allez faire un doctorat en cinéma sur un cinéaste allemand, Wim Wenders. Et je crois que vous avez été très marqué par un de ses premiers films. Peut-être je me trompe, vous allez me dire, L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty.
Oui, ce cinéma-là, si on doit l'attacher à un genre, ça s'appelle The Road Movie. C'est donc le déplacement. C'est un cinéma très urbain. C'est le paysage urbain et compte beaucoup dans ce cinéma-là. Le thème de l'itinérance, le voyage. Et moi, qui venais de partir à 18 ans, et jusqu'à maintenant, je voyage beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je me suis reconnu dans la modernité de ce cinéma-là.
Oui, c'était très loin de vous, en même temps.
Absolument, oui, mais peut-être c'est pour ça aussi. Donc, moi, j'étais curieux. Enfin, moi, mon défaut, mon qualité première, c'est la curiosité. Voilà.
Et sur quoi portait votre doctorat? Je suis curieuse.
Le thème, c'était le héros itinérant et le paysage urbain dans l'œuvre de Wim Wenders.
Ah oui.
Voilà. Enfin, mais disons, je dis pas trop que j'ai un doctorat de la Sorbonne, parce que c'est pas très important. L'important, c'est de faire des films. Moi, je suis venu pour apprendre à faire des films, pas avoir un diplôme, mais...
C'est quand même important, les diplômes.
Moi, je ne sais pas. Je pourrais enseigner, par exemple, mais ça m'intéresse pas. Je pourrais enseigner avec mon diplôme, mais je le fais pas.
Vous voulez être sur le terrain. En tout cas, après ce doctorat, vous suivez les cours d'un certain Romer, Eric Romer, que vous trouvez un peu trop académique, dans sa façon de transmettre.
Pas dans ses films, mais dans sa...
Mais celui qui va rester essentiel pour vous, c'est surtout Serge Danet, le critique, le penseur de cinéma.
Peut-être que le cinéma, d'un point de vue comme ça, chrétien, a eu rapport avec la compassion. En tout cas avec l'empathie. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les paysans du Moyen-Âge japonais qui se font tuer chez Mizoguchi, parce qu'il a une façon de les filmer au XIIe siècle. Et il parle japonais, je comprends rien. Tel que je sais que c'est vrai. Voilà. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est comme ça que ça s'est passé. Que le mouvement était vrai. Pas la scène, pas les costumes. Que le mouvement était vrai. Que le mouvement de caméra que fait Mizoguchi à ce moment-là, le mouvement est juste. Tant que le cinéma fait ça, moi je suis citoyen du monde. Et même du monde qui est passé. Même de l'histoire. Le jour où j'ai plus ça, et pas au Japon, chez moi, dans ma culture, le jour où j'ai le chanteur qui se montre en train de chanter, pour pas qu'on voit que le spectacle est quand même horrible, je me dis, est-ce que j'ai envie de le regarder? Moi, je veux bien te payer pour pas le voir. Je suis très généreux. Je veux bien payer pour ne pas voir tel chanteur nul chanter une chanson en faisant semblant d'y croire, pour pas que je vois. C'est-à-dire qu'on en est déjà à une troisième non-image. On ne veut plus voir l'état du monde, alors qu'on a des moyens de la voir comme on l'a jamais vu. L'état du monde, c'est-à-dire quand même beaucoup de choses pas très jolies à voir. On remplace l'état du monde par la charité de l'état du monde. Ça fait marcher le showbiz. Ça fait marcher les télés. Moi, je dis, je veux pas voir ça.
Voilà, déjà en 92, Serge Danet, votre maître à penser le cinéma, posait la question, à quoi sert le visuel ?
Je suis très ému de l'entendre parce que en fait ses cours c'était comme ça, elle parlait comme ça sur le ton de la conversation, mais chaque phrase c'était une fulgurance.
À quoi sert de filmer l'état de l'Irak? C'est la question que Serge Danet pourrait vous poser aussi. Est-ce que votre film à ses yeux aurait une sorte d'efficacité?
Il n'est plus là, donc je peux pas parler à sa place, mais
tranquille.
Je crois qu'il aurait, mais on a eu des conversations, parce que lui, il avait cette curiosité-là, donc c'est de savoir qu'un de ses étudiants était irakien, donc il parlait, il allait sur le terrain des autres, c'est-à-dire, il avait cette générosité-là. Et mon film, l'intérêt de mon film, c'est j'ai documenté un moment historique et peut-être je suis un des rares à l'avoir fait, enfin en toute modestie, parce que j'ai eu cette curiosité et je me suis donné les moyens le temps de le faire.
Il n'y a pas d'autres images que votre film sur les mois précédant l'invasion américaine et sur les mois qui suivent?
J'en connais pas, enfin si ça existe, peut-être qu'on le découvrira un jour. Ça n'existe pas parce que d'abord les étrangers n'avaient pas cette curiosité-là. Et ils n'avaient pas les moyens et pas la possibilité.
Vous ne pouvez pas rentrer aussi facilement.
Parce qu'avant, c'était Saddam. Donc, je vous dis, c'était un journaliste britannique d'origine iranienne venait d'être exécuté en Irak pour espionnage. Ils l'ont trouvé en train de prendre des photos, même pas de filmer. Donc, imaginez, moi, je rentre en Irak, je suis rentré avec un passeport français. C'est pour ça aussi que j'ai pu entrer et sortir. Mais si on m'avait arrêté en train de filmer, alors que je suis irakien avec un passeport étranger, et à l'époque, tout irakien avait l'interdiction de communiquer avec des étrangers. Or, moi, c'était évident pour eux, j'aurais été un espion. Voilà un Irakien qui revient avec un passeport étranger pour nous filmer à la veille de la guerre. Donc, c'est forcément un espion. Donc, moi, j'ai pris ce risque-là, mais je connais pas beaucoup d'autres Irakiens ou étrangers qui avaient pris ce risque-là. Je les comprends. Enfin, et en même temps, c'est pas seulement le prendre le risque, c'est avoir un projet, un regard et avoir une famille. Moi, si j'avais pas cette famille-là, j'aurais pas fait le film, ou le film n'aurait pas eu cet impact-là.
Vous pensez que la force de votre documentaire, c'est justement de filmer de l'intérieur
d'une famille?
Absolument.
Je crois, oui, c'est son intérêt, parce que sinon, des images, il y avait de temps en temps des équipes. J'ai vu des équipes françaises. Je vous ai dit, dans l'avion de France 2, etc. Elles allaient dans le même hôtel. Elles avaient un guide officiel qui les conduisait là-haut. Le gouvernement irakien autorisé à filmer, etc. Du coup, les médias du monde entier ont ramené les mêmes images. Et aucune image de l'intérieur, de la vie quotidienne.
Est-ce que vous avez déjà utilisé la musique de Mounir Bachir dans vos films?
Non, mais c'est une tentation pour tout Irakien. Mounir Bachir, c'est une institution.
Qui entr'ouvre la porte au cinéma de Wang Bing avec un extrait de ce documentaire Fleuve, lui aussi, qui s'appelle À la folie, qui se déroule dans un hôpital psychiatrique, et il y filme les oubliés de la société chinoise, ceux qu'on appelle les fous. Et Wang Bing, pourquoi? Parce que c'est un cinéaste que vous aimez, Abbas Fadel.
Oui, oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Enfin, pour moi, le meilleur du cinéma actuel, ça vient de l'Asie et plus particulièrement de la Chine. Et les deux plus grands cinéastes au monde actuel, c'est peut-être Wang Bing, donc les Chinois, et Jia Zhenqi, qui est chinois aussi.
Et pourquoi?
Bah, peut-être parce qu'ils vivent un moment historique. Il y a des périodes historiques comme ça qui produisent des œuvres culturelles exceptionnelles.
Donc il y a de l'espoir pour l'Irak, alors?
Non, sur le plan culturel, il y aura quelque chose, ça donnera quelque chose. Même si, sur le plan politique et social, c'est beaucoup de malheur, beaucoup de morts, mais sur le plan culturel, ça donnera des choses, peut-être, qui vont nous arriver jusqu'en France.
Juste un mot sur ce documentaire À la folie que vous avez sans doute vu. Pourquoi? Ouais. Quelle est la force de ce documentaire pour vous?
La force de ce documentaire, c'est la force aussi du cinéma de Wang Bing. Elle va vers les délaissés, les déclassés. C'est l'immersion. Elle va où les caméras ne vont pas. Qu'est-ce qui va passer du moins dans un hôpital psychiatrique en Chine? Il faut beaucoup de courage, de l'empathie, de la compassion pour ces gens-là. Et il y a, généralement, le cinéma mondial, je qualifierais ça le cinéma de mépris.
أثقلت أغصانه النشوى
بي كم
وكنا جدنا الهدار يضحك أو يغني
بوات
في ظلال الجوسق القصبي وفلاحيه ينتظرون ضيفك يا إله
دي باندور
وإخوتي في غابة الزمن.
Oui, Oui, on vient d'entendre la voix de Battelsia Kosseya, le père de la modernité poétique arabe. Et c'est un grand poète irakien qui est adoré par les Irakiens. Et c'est le premier poète que j'ai découvert et qui m'a communiqué l'amour de la poésie. J'ai un souvenir, c'est un de ses poèmes. Mon prof de littérature arabe m'a demandé d'aller lire et je l'ai lu et le prof il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on le lit, on lit pas la poésie comme ça. Il s'est mis à tapoter sur la table en lisant. Je vais essayer de l'imiter. Aina kira bata nakhir sa'at as-sahar aw shufatan ira hayan anhum al-qamar aina kihina tabtiman turq al-kulum wa tarqus al-adwa' kal-aqmar fi nahar. Ce prof m'a appris comment lire un poème et du coup comment le retenir aussi.
Ouais. Votre éveil, vous, votre conscience politique, vous la devez au cinéma, mais pas seulement, vous la devez aussi au poète arabe Mahmoud Darwish, pour ne citer que
Mahmoud
lui.
Mahmoud Darwish, ouais. Et même Battelsia Kosseya, ce poème là, donc que je viens de lire. Il est extraordinaire parce qu'il commence par parler des yeux de sa bien-aimée. Tes yeux sont comme deux palmeraies à l'heure du crépuscule, comme deux balcons qui s'éloignent de la lune. Et puis il finit par parler des gouttes de pluie qui tombent et qu'il compare aux larmes des affamés et aux gouttes de sang des esclaves opprimés. Et c'est un peu le même mouvement que j'ai fait dans mon film, c'est à partir de l'intime vers le patriotique, vers le politique.
Donnez-nous les deux images de votre film qui commence sur l'intime et qui finit sur le patriotique.
C'est le premier image, le premier jour de la fête de l'Aïd, c'est le chat dans le jardin, c'est les enfants qui se réveillent, c'est la famille qui boit le thé en regardant la télé, et puis après la politique entre dans le champ avec le discours de Saddam à la télé qui souhaite joyeuse fête aux Irakiens, aux soldats, qui reçoit les ministres dans le même mouvement.
Vous tournez, vous, toujours en arabe et exclusivement sur l'Irak.
Oui.
Pourquoi ?
Un film, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de temps, d'engagement psychologique. Et je ne me vois pas m'engager et m'investir dans un projet qui ne me touche pas profondément.
Et donc il n'y a rien d'autre que l'Irak qui vous touche ?
Non, rien d'autre. Moi, en France, je suis très engagé politiquement, culturellement, je vote, etc. Je mobilise, mais je vois pas une urgence artistique à faire un film. Je ne sais pas sur quoi, sur des élections, sur ma déception de la politique de M. Hollande. Enfin, ça, je peux en parler dans des conversations, mais je ne me vois pas consacrer un film à ce sujet-là. J'ai raconté une histoire d'amour, mais en Irak, en temps de guerre, mais je ne me vois pas raconter une histoire d'amour entre une Juliette et un François à Paris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien les films qui parlent de ça, mais oui. Moi, je manque de motivation pour faire ce genre de choses.
Donc, vous êtes dans une démarche d'enfant du pays, journaliste un peu.
Je ne sais pas, journaliste. En fait, si l'Irak, si les choses étaient normales en Irak, j'aurais oublié ce pays. J'y serais allé de temps en temps comme touriste, mais j'aurais pas eu le besoin ni l'envie de faire des films. Et le problème, c'est ce qui s'est passé en Irak, ça bouleverse.
Youssef Chahine expliquait dans une interview qu'au tout début du cinéma arabe, les films parlaient en arabe, mais ça restait quand même des films occidentaux dans les codes. Vous vous sentez dans quelle famille cinématographique, Abbas Fadel, vous qui vivez ici, qui avez été formé ici, avec les codes d'ici quand même, mais qui racontait toujours là-bas?
Ouais. Par exemple, dans mes films, je me réfère pas à des codes du cinéma occidental. J'aime beaucoup les genres. Je vous ai dit que les premiers films que j'aimais, c'est le Western Spaghetti, le Peplum, les comédies musicales. Mais je me suis éloigné. C'est-à-dire, dès l'âge de 15 ans, j'ai découvert Antonioni, Joseph Losey, enfin, Louis Buñuel. Mais quand je fais des films, j'ai pas de codes. Je ressens les choses, en fait. C'est des sensations. Si je peux qualifier mon cinéma, c'est un cinéma de sensations. Enfin, le cadre, je trouve tout seul. C'est moi qui cadre, donc c'est pas prémédité. C'est juste, je vois tout de suite, ce cadre est juste.
Extérieure nuit, avec vous, près de l'Euphrate. Car dans les rushs de Homeland Irak Year Zero, on ne peut pas ne pas y voir des petites pépites, comme cet Irakien, un certain monsieur Nedja, qui montre du doigt des petites maisons au loin.
هذه المنطقة اللي هي مقابلة لنا كان البيت إحنا اللي نسكن به.
Sur l'autre rive, en face, se trouvait notre maison.
أما الشارع بالذات يسموه شارع اليهود بالذات.
La rue s'appelait la rue des Juifs.
مجموعة اللي التكتل سكني يسكنون بقرب النهر.
Les Juifs vivaient dans les maisons en bordure du fleuve.
كنا هسه مع بقعة أحد لأن أشهرنا إسلامنا في سنة 1986.
Il ne reste plus de Juifs car nous nous sommes convertis en 1986.
إحنا عشنا في وسط اجتماعي. هالوسط الاجتماعي اللي عايشين من آلاف يعني مئات السنين عن أب وجد يعني. هالوسط الاجتماعي.
Nous vivons ici depuis des centaines d'années, de père en fils, et nous sommes bien intégrés dans la société.
ولذلك صفاتهم الحميدة هي اللي ساعدتنا أو قربت من وجهة نظرنا بالنسبة للإسلام.
Ce sont les qualités des gens qui nous ont rapprochés de l'islam et facilité notre conversion.
B comme tour de Babel.
Scène étonnante, hein. Quelle impression vous avez eue en la filmant, Abbas Fadel?
Le personnage Hadji Najjar, c'est un personnage vraiment extraordinaire, plein d'humanité. Il est devenu une référence en islam, alors que c'est un juif converti. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, pour moi, c'est de savoir la ville où j'ai filmé, c'est la ville de Yit, elle est au mois de Daesh, elle est tombée au mois de Daesh au mois de décembre dernier. Donc ça fait 7-8 mois que cette ville, et donc y compris Hadji Najjar et ma sœur qui vit dans cette ville, sont à la merci de Daesh. Et malheureusement, j'ai pas de nouvelles parce que le téléphone et Internet sont coupés dans cette ville.
Donc, plus de juifs en Irak, ou bien des juifs convertis à l'islam. Et ça nous rappelle la Bible où on raconte la déportation des Hébreux jusqu'à Babylone à cause de Nabucodonosor. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion. C'est un des chants de l'exilé. Est-ce que vous, Abbas Fadel, vous avez l'impression que les jeunes Irakiens ont connaissance de la force de leur histoire? De ce qu'était Babylone?
Pas beaucoup, en fait. Dans ma génération, oui, mais la génération actuelle, elle est tellement dans les médias, dans les problèmes actuels, qu'elle n'a pas le temps. On ne lit plus, par exemple. Moi, dans ma génération, on lisait beaucoup. Dans ma famille, on le voit, il y a même une séquence qui en parle.
Il y a une scène de bouquiniste dans une rue qui raconte que finalement, les pilleurs, les Alibaba, comme on les appelle, ne sont pas intéressés par les livres. Ne volent jamais les livres.
Voilà, ça n'a pas une valeur commerciale, donc une valeur marchande, donc ils ne volaient pas les livres.
Vous avez un trajet douloureux mais magnifique. Vos parents seraient ou sont fiers de vous, sans doute. Votre père, donc, un progressiste laïque, non-croyant, sunnite, et votre mère, chiite, croyante. C'était donc possible, tranquillement.
Oui, ça, c'était l'Irak où j'ai laissé. Moi, mes parents, ils n'étaient pas cultivés, ils n'avaient pas fait l'école, donc c'était pas... Mais c'était comme ça. La tolérance, c'était une valeur qui existe au quotidien. Enfin, moi, j'ai quitté l'Irak, mes sœurs portaient des mini-jupes. Aujourd'hui, leurs filles portent le voile. Donc, vous voyez la régression. Et leurs fils, ils ont fait l'université, sont des médecins, sont des ingénieurs, et pourtant la pression sociale est telle. Mais c'est devenu avec Saddam, enfin c'est après la guerre avec l'Iran, Saddam est entré dans une sorte de surenchère religieuse avec les Iraniens, par peur que les Irakiens soient attirés par la propagande islamiste du régime iranien. Donc il a lancé une grande campagne d'islamisation de la société, alors que lui-même il était laïque.
Une dernière question, est-ce que le mythe de la tour de Babel, vous le racontez à vos enfants, si vous en avez, ou à vous?
Oui, j'ai une fille irakienne qu'on voit d'ailleurs dans mon film Homeland. C'est pas précisé dans le film quand on la voit que c'est ma fille. On la voit manifester à Paris avec le drapeau irakien. C'est ma famille à Bagdad qui regardait la télévision irakienne, une manifestation à Paris. Et qu'est-ce qu'on voit dans le manif? Une petite fille portait le drapeau irakien, c'est ma fille. Donc tout est imbriqué, c'est-à-dire même ma vie à Paris, elle fait partie aussi de mon grande histoire irakienne.
Et elle connaît le mythe
elle de connaît, la... Elle connaît, oui, je lui en parle beaucoup. Et oui, elle connaît, mais elle n'est pas encore allée en Irak. Elle a peur.
En sol majeur, c'est sur RFU.fr, Facebook et Twitter.
Merci Abbas Fadel d'être venu en sol majeur avec ce documentaire poignant Homeland Irak Year Zero, sesterce d'or du meilleur long métrage du festival Vision du Réel 2015, et vous allez recevoir le prix du meilleur film européen décerné par le prix Doc Alliance Selection Award au festival de Locarno. Je ne dirai qu'un mot, bravo.
Merci.
picture, all this picture. Without any place, without any place. He is our father, he is our father. With a lovely face, with a lovely face.
Facebook, Twitter et puis derrière le poste chaque samedi, chaque dimanche à 13h10 temps universel, 15h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On se retrouve la semaine prochaine avec Marie-Thérèse Imbert. À la semaine prochaine.